explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Mais croyez-vous que je peux regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Imaginons que très loin, quelque part dans notre galaxie, sur une planète appartenant à un autre système solaire, il existe des êtres vivants plus intelligents que nous, plus avancés que nous, mais qui, contrairement à nous, n'ont pas le sens de la vision. Toute une civilisation entièrement aveugle pour qui la lumière et les couleurs n'existent pas. Comment ces extraterrestres percevraient-ils le cosmos? Quelle représentation auraient-ils de l'univers? Et si d'aventure nous entrions en communication avec eux, pour peu que ces êtres soient doté du sens de l'ouïe, peut-être choisirions-nous la musique pour leur transmettre ce que nous ressentons face à la beauté et à la poésie d'un ciel étoilé. Depuis l'Antiquité, musique et astronomie sont liées dans le cœur des hommes, nous allons le découvrir. Aujourd'hui, nous nous envolons pour une balade cosmique entre science et musique avec un physicien un peu musicien.
Le temps d'un bivouac.
Vers l'infini et au-delà.
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue. Comme tous les jeudis, nous partons pour un bivouac cosmique avec pour guide aujourd'hui Jean-Philippe Uzan. Bonjour.
Bonjour.
Physicien et cosmologiste au CNRS et à l'Institut d'Astrophysique de Paris, vous avez publié L'harmonie secrète de l'univers aux éditions La Ville Brûle. Vous allez nous raconter les liens que l'homme se plaît à tisser depuis des siècles entre le cosmos et la musique. Pour vous adresser une question, les auditeurs peuvent le faire en passant par franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. Et puis à 17h, nous partirons sur les petites routes de l'Hexagone en compagnie de deux amis d'enfance, Pierre-Adrien et Philibert Hume. Ils ont décidé de refaire le parcours emprunté par les deux héros d'un livre de classe qui a marqué des générations d'écoliers, Le Tour de la France par deux enfants. Voilà pour le parcours du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay et préparée par Alexandre Chaune et Solette Varie avec l'aide de Cyrielle Laborde.
Les étoiles, on ne sait pas très bien ce qu'il y a, et donc on peut penser qu'il y a des bêtes imaginaires, ou des dieux, ou des choses comme ça.
Ça doit évoquer quelques souvenirs pour vous, Jean-Philippe Uzan. Vous aimez transmettre et il vous arrive d'intervenir dans des classes pour parler du cosmos et des étoiles avec les enfants. D'ailleurs, il y a quelques années, vous avez mené un projet avec une classe de CM2, c'était à Bobigny. C'était un projet entre science et art, donc vous étiez aussi accompagné d'un compositeur, plasticien, Eddy Ladoire. Et ça vous a emmené bien plus loin que vous ne le pensiez, cette histoire avec cette classe.
Oui, tout à fait. Souvent, c'est un petit peu comme ça dans la vie. C'est-à-dire, on commence un projet, on ne sait jamais où ça va vous mener. Et ça, c'est aussi la beauté de la vie. C'est le cas en recherche. On commence un projet, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et là, c'était une aventure, on ne s'attendait pas à ça. Et donc, ça, c'était si mon souvenir est bon, en 2008-2009. Et j'avais été invité par la Fondation 93, donc qui œuvre en Seine-Saint-Denis et qui développe des projets en milieu scolaire pour, dans ce cadre, art et sciences. Et donc, il y avait plusieurs chercheurs qui avaient été invités et on était mis en binôme avec un artiste. Et quand on avait discuté, moi j'avais demandé à travailler avec un compositeur, parce que dans ce genre de projet j'aime apprendre moi aussi. C'est vrai que j'adore la musique, j'avais étudié la musique au conservatoire hein, comme beaucoup d'enfants.
Vous êtes clarinettiste aussi?
Oui, très mauvais, mais c'est pas grave. Le truc, comme on disait dans mon orchestre, il vaut mieux jouer fort et faux que doucement et faux. Donc c'était un petit peu... Donc voilà, donc la musique, c'est bien sûr, c'est une pratique quoi. Beaucoup d'enfants ont la possibilité d'en faire. Et Quand on apprend la musique à l'école ou au conservatoire, on apprend la musique, je veux dire, traditionnelle, avec cette portée, ces petits points, ces choses-là. Et il est clair que quand j'étais plus âgé, en particulier au moment où j'ai fait le bac, où j'avais pris l'option musique, on découvre des compositeurs contemporains où l'écriture musicale est complètement différente. Mmh. Et en fait, comme j'ai pas poussé ça, parce que je suis allé faire des maths, de la physique, une classe prépa et ainsi de suite, il y a un moment, je me suis dit, mais je comprends pas trop leur langage. Comment est-ce qu'ils s'expriment? Comment est-ce qu'un musicien qui voit ses dessins est capable de jouer quelque chose? Parce que pour moi, ça ne fait aucun sens. Et je me suis dit, donc, si je peux mener ce projet, ça serait bien de travailler avec un compositeur, parce que à travers ce projet, moi aussi j'apprendrai. Je trouve que dans tous les projets, ce qui est bien, c'est de donner et puis aussi de s'ouvrir à un nouveau monde.
Alors, au cœur de ce projet, au départ, il y a la lumière, hein, ce que l'on voit, des étoiles dans le ciel. Et puis un jour, à une pause, alors que je crois même les enfants à ce moment-là jouent dans la cour de récréation, vous discutez avec ce compositeur plasticien et cette question vous vient « Et si l'humanité était aveugle ?» Qu'est-ce que nous verrions, qu'est-ce que nous percevrions de notre univers? Alors voilà, ça va vous trotter dans la tête, cette question.
Ah, tout à fait, parce qu'on était en train de chercher un projet en fait pour faire travailler les enfants, puisqu'ils ont composé, hein, c'était de la musique électroacoustique, ils ont enregistré des sons pour recréer l'univers de leur classe, de leur école, et on cherchait cette idée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va, quelle histoire on va raconter, parce que en fait souvent en science ou dans beaucoup d'activités humaines, ça part par une histoire, et on cherchait une histoire, et il y a un moment j'ai eu cette sorte d'illumination, je me suis dit, mais si on était tous aveugles, comment nous représenterions-nous le monde? Puisque toute l'information que j'ai sur le monde extérieur me vient de mes sens, et en particulier pour les êtres humains, principalement les yeux. 99,9% de l'information que j'ai sur l'univers, c'est la lumière des étoiles, la lumière des galaxies. Si je ne voyais rien, comment est-ce que je me représenterais l'univers? Et en fait, cette question, elle est à la fois simple et elle est très puissante, parce qu'elle est compréhensible par un enfant. Il suffit qu'on ferme les yeux et on essaye de s'imaginer l'univers dans lequel on est. Donc on va être dans la pièce, on va bouger, on va se cogner à des choses, on va se rendre compte qu'on est dans un environnement. Et puis elle est très profonde parce qu'en fait, elle raconte beaucoup de choses sur l'histoire des sciences. C'est-à-dire que la science s'intéresse au monde dans lequel nous vivons, à essayer de le comprendre, mais de dépasser nos sens. Nous voyons un objet. Si je le regarde avec mes yeux, je vais avoir une certaine vision, par exemple, de cette table. Je vais voir qu'elle est lisse, je peux la toucher, je vois qu'elle est dure. Si je la regarde avec un microscope, elle va avoir une apparence complètement différente. Mmh. Et on a inventé dans l'histoire des sciences de nombreux outils pour voir les choses que nous ne sommes pas capables de voir avec nos sens. Ouais.
Au-delà de ce que nous percevons directement. Et en matière de spatial, la grande majeure partie de ce qu'on nous envoie comme signaux n'est pas perçue. C'est pour ça qu'on utilise des instruments qui regardent dans l'ultraviolet, qui regardent dans les rayons X, qui regardent dans les rayons gamma, dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge. Finalement, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Voilà, alors est-ce que c'est l'essentiel? En tout cas, énormément d'informations n'est pas accessible à nos yeux. Et ça, on a commencé à le découvrir. En fait, ça commence peut-être avec la petite expérience qu'on apprend à l'école, où on voit Newton avec son prisme qui décompose la lumière du soleil et qui voit les couleurs. Et puis, on s'est rendu compte, ensuite, en particulier avec William Herschel, qu'il existait des couleurs inaccessibles à nos yeux. Il découvre les infrarouges. Et à partir de ce moment-là, les gens disent, si ça existe, on va être capable de les détecter. Et donc, on va faire des détecteurs qui vont détecter ces infrarouges. Et on va être capable de faire des images en transposant ces couleurs dans les couleurs qui sont visibles par nos yeux pour faire des images d'objets en infrarouge. On a les ultraviolets, on a les rayons X. Et donc, on a réussi à explorer tout le spectre de ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques, donc la lumière dans toutes ses couleurs au-delà du visible. Mmh. Et à chaque fois qu'on a observé la nature dans ses différentes couleurs, on a eu accès à une nouvelle réalité, parce que la raison pour cela, alors c'est vraiment là une raison de science, c'est que une longueur d'onde, une couleur, c'est une longueur d'onde. Une longueur d'onde est associée à une énergie, et donc dans chaque couleur, il va y avoir des processus physiques différents qui vont être prédominant. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une vision multi-longueur d'onde, multi-couleur, en fait, d'un phénomène physique. Et donc, on va découvrir des phénomènes que l'on ne voyait pas simplement en optique.
Alors là, on est uniquement dans la lumière, visible ou invisible, hein, le spectre électromagnétique. Il y a aussi d'autres signaux qui nous sont envoyés. Hein. On a des neutrinos, ce sont des petites particules qui nous traversent, mais qui portent aussi en elles des informations. Et puis, plus récemment, il y a cette découverte des ondes gravitationnelles. Encore tout un champ astronomique qui s'ouvre.
Ah oui. Alors ça, les ondes gravitationnelles, c'est tout à fait fabuleux, parce que pour ce signal-là, nous étions complètement aveugles. Voilà. Nous n'avons aucun sens associé à ces ondes gravitationnelles. Pour les détecter, il a fallu créer ces grands interféromètres qui sont aux États-Unis et maintenant en Italie, à côté de Pise, qui ont des bras qui font 3 ou 4 kilomètres de long. Et donc, il est très difficile de détecter ces ondes. Il était même difficile de concevoir leur existence, puisqu'il a fallu attendre la formulation de la relativité générale par Albert Einstein en 1915. Et puis ensuite, des années et des années de compréhension de cette théorie pour se convaincre que ces ondes gravitationnelles existe et pour être capable de les détecter, et ensuite de comprendre qu'est-ce qui émet ces ondes gravitationnelles. Ça, on l'a compris, ce sont principalement les astres compacts comme les systèmes binaires de trous noirs. Et à partir, c'était novembre 2015, il y a eu cette première détection qui a été annoncée en février 2016. Nous avons détecté les ondes gravitationnelles, comme disait la porte-parole de la collaboration LIGO. Et donc, on ouvrait un champ sensoriel auquel nous n'avions jamais eu accès.
Il faut se rendre compte de ce qu'on dit. Hein. On a un nouveau sens pour observer.
Voilà, on a un nouveau sens. Et là, ça nous fait réfléchir. Tout un chacun, je pense, chez soi, doit se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire voir. Parce que, bien sûr, on a la notion habituelle de voir, c'est je vois avec mes yeux, ou à la rigueur, je peux sentir. Mais la science nous a donné des yeux qui nous permettent de voir des choses qui, a priori, n'émettent pas de lumière, sont très très loin. Et avec ces ondes gravitationnelles, on a réussi à prouver l'existence des trous noirs. Avec d'autres phénomènes du même type, on va être capable d'avoir une idée de la distribution de ces trous noirs dans les galaxies, peut-être même de la matière noire. Donc de tous ces aspects qu'on appelle noirs en cosmologie, c'est-à-dire qui n'émettent pas de lumière, eh bien on voit que on arrive à les questionner en utilisant des théories de la science qui ont été établies ici sur Terre. Et ça, c'est un grand progrès. Je crois que c'est un des grands acquis de la science, c'est de se dire que la science nous permet de questionner la réalité en dehors de notre champ sensoriel et de révéler que, finalement, le monde est très différent de l'image manifeste que l'on en a par nos cinq sens.
Et oui, se méfier de ce que l'on croit percevoir de ce qui nous entoure. Alors, il y a ces ondes gravitationnelles, il y a toutes ces ondes électromagnétiques. Est-ce que l'espace nous envoie des ondes sonores?
Alors l'espace ne nous envoie pas des ondes sonores puisque l'espace est vide et ça on le sait, donc l'expérience qu'on apprend à l'école, c'est Robert Boyle, un anglais, je crois que c'est 1670, mais j'espère pas faire d'erreur sur la date si ma mémoire défaille, qui fait cette expérience dans laquelle il prend un vase dans lequel il a fait le vide et à l'intérieur duquel il y a une clochette. Il remue, on voit la clochette bouger, on n'entend pas le son de la clochette. Il ouvre la petite valve, l'air rentre à l'intérieur de ce vase, il remue de nouveau et là on voit la clochette bouger et on l'entend sonner. Ouais. Et donc c'est une preuve qu'il faut un milieu pour que le son se propage.
Dans le vide, le son ne se propage pas. Pourtant, au moment où on a découvert ces ondes gravitationnelles, dans les médias, on a entendu ceci. Alors, ça, vous avez l'air de deviner, c'est le son retransmis de ce que seraient les ondes gravitationnelles.
Alors, celui-ci, je crois que c'est un signal d'ondes gravitationnelles qui est issu d'une simulation numérique de coalescence de deux trous noirs.
C'est ça.
C'est pas exactement là. C'est pas le signal qu'on a entendu au mois de février 2016, qui était comme ça. En fait, est à peu près similaire. Celui-là, qui est beaucoup plus long, en fait, est issu d'une simulation numérique.
Oui, mais rentrons pas dans les détails trop techniques. Voilà. L'idée, c'est que il n'y a rien de sonore, mais par contre, on arrive par le calcul, par des simulations, à nous faire entendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait entendre ?
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une transposition. C'est-à-dire qu'on a un signal qui est un signal d'onde gravitationnelle, et on va se dire, eh bien, ce signal, je vais imaginer que c'est un signal sonore. Et donc, je vais utiliser un ordinateur pour sonifier, pour faire entendre ce signal. Et donc, quelque part, on va transformer du son en lumière, de la lumière en son, des ondes gravitationnelles en son. Et à partir de ça, on va commencer à pouvoir écouter les phénomènes de la nature, bien que le son ne se soit pas propagé dans l'espace.
Alors, ça a l'air d'une curiosité ou de quelque chose d'un petit peu amusant. Ça peut vraiment être un objet de recherche, hein, cette idée de transformer en son des phénomènes qui, a priori, au départ, n'étaient pas sonores. Je vous propose, par exemple, pour l'astronome Vanda Diaz, c'est un outil indispensable, cette façon de transposer en son. Elle est devenue malvoyante. Quand elle a commencé à travailler dans l'astrophysique, à faire ses études, elle était encore voyante, puis elle est devenue malvoyante. Alors ses collègues, avec elle, ont imaginé de convertir les données chiffrées habituellement représentées par des graphes en son. Je lui laisse le soin de vous expliquer la suite.
Tout ce que nous avons pu faire visuellement pendant des siècles, je peux à présent le faire en utilisant des sons. En écoutant ce sursaut gamma que vous voyez ici, j'ai entendu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Je vais vous faire écouter ça. Ce n'est pas de la musique, c'est un son. Il s'agit de résultats scientifiques convertis en sons et catégorisés en tons. Ce procédé s'appelle la sonification. En écoutant ce son, j'ai entendu autre chose que le sursaut gamma. Nous avons remarqué des résonances typiques de gaz chargés en électricité comme les vents solaires. et je voudrais que vous écoutiez ce que j'ai entendu. Vous allez l'entendre comme si le volume diminuait soudainement. Et comme vous n'êtes pas malvoyant, je vais vous aider avec cette ligne rouge indiquant l'intensité de lumière convertie en son. Je pense que vous l'avez entendu, non? Ce que nous avons trouvé, c'est que le sursaut dure assez longtemps pour créer des résonances qui sont causées par des échanges d'énergie entre particules qui ont pu être excitées, dépendant du volume. Qu'est-ce que ça signifie? La formation des étoiles peut jouer un grand rôle dans l'explosion de ces supernovas. En écoutant ces rayons gamma, nous avons découvert que l'utilisation du son comme aide visuelle complémentaire peut aussi aider les astronomes voyants dans leur recherche d'informations dans les données.
Ça fait réfléchir, hein, Jean-Philippe Usan. Finalement, même sans les yeux, on peut étudier l'univers et aider ceux qui voient.
Tout ça est une question d'éducation. Quand vous voyez une courbe mathématique, elle ne vous dit rien, c'est une forme. C'est le travail d'années et d'années qui vous permet de voir sur une courbe qu'il y a des choses qui se passent et que vous allez interpréter comme des phénomènes physiques. Donc ça, c'est travailler avec la théorie et s'éduquer à lire des objets mathématiques, à lire des chiffres, à lire des courbes. Vous pouvez aussi éduquer votre oreille à lire ces mêmes informations. Et il se peut même que certaines choses qui ne sont pas détectables visuellement le soient par le son. C'est ce qu'elle explique dans ce petit extrait. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut dire que j'ai eu la chance de rencontrer Wenda Dia. C'était au printemps 2014. J'étais à l'Université du Cap et elle travaillait à l'Observatoire du Cap à l'époque. On me l'a présenté et c'était presque 8 ou 9 ans après que j'ai eu cette idée de l'astronome aveugle. Et on a discuté, je donnais une conférence sur le sujet, elle a écouté des sons que j'avais produits. Elle m'a dit « Ah mais tiens, on entend ci, on entend ça ». Et je me suis dit « Mais ça marche », c'est-à-dire que quelqu'un qui a éduqué son oreille reconnaît les choses qu'on a utilisées dans cette pièce qu'on a composée avec Eddie Ladoire qui s'appelle Vostok. Mmh. Et donc, il y a vraiment quelque chose derrière ça. Et puis ça a renvoyé, d'un point de vue, je veux dire, plus de la science-fiction, à ce personnage d'Eli Haraway dans Contact, le film de Zemeckis, le roman de... Ah, ça y est, j'ai un trou. C'est pas grave.
On en reparlera plus tard dans l'émission, en plus de Contact. Alors ne vous inquiétez pas.
Très bien.
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et de nos découvertes, le physicien Jean-Philippe Usan nous emmène dans un bivouac cosmique entre science et musique cet après-midi. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac.
Magnifique. Magnifique. Magnifique.
C'était magnifique, Junior, sur France Inter.
Toutes les civilisations se sont bricolées leur petite salade pour essayer de comprendre comment l'univers était fait. Les Grecs, par exemple, avaient une cosmogonie géocentrique. La Terre au centre de l'univers et autour, les planètes du système solaire, chacune fixée sur une série de sphères en cristal concentrique. Et sur la dernière sphère, la plus grande, la voûte céleste. Toutes les étoiles épinglées là-dessus comme un joli papier peint. Par souci de perfection, parce que le grec aime bien la perfection, j'imagine, ces sphères sont éloignées les unes des autres des mêmes distances qui séparent les notes de musique. Ce qui ne veut absolument rien dire. Rien.
Alexandre Astier, dans un extrait de son exoconférence qui fait beaucoup rire notre invité, ah, Jean-Philippe oui. Usan, auteur de L'harmonie secrète de l'univers. Alors, Alexandre Astier fait référence avec humour, mais à des théories qui ont effectivement eu cours dans l'histoire des sciences, Jean-Philippe Usan.
Ah oui, tout à fait. Donc ça, c'est cette idée d'associer la taille des orbites des planètes à des notes de musique, à une longue histoire. La légende veut qu'on fasse remonter ça à Pythagore. Alors bien sûr, on va pas discuter de savoir est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est une légende. De toute façon, même si c'est une légende, c'est pas grave. Ouais. Comme je dis souvent, les histoires, si elles ont survécu, c'est qu'elles sont, elles portent quelque chose en elles.
Elle est belle, cette légende. Racontons-la.
Donc Pythagore, on est vers 570 avant notre ère, quelque chose comme ça. Il est dans son île de Samos et la légende raconte qu'il se baladait dans son village, qu'il passe devant l'échoppe des forgerons et il entend les forgerons taper avec leur enclume, avec leur marteau sur les enclumes. Il se rend compte que les sons sont différents suivant la taille des marteaux, la taille des enclumes. Il demanderait aux forgerons d'échanger leurs marteaux pour voir que c'est bien la taille des marteaux et des enclumes et pas la force des forgerons qui est importante. Et puis à partir de ça, il va se poser la question, quelle est la relation entre la taille des objets et le son qu'ils émettent? Et à partir de là, on nous rapporte, il y a une gravure dans un livre du XIIIe siècle où on voit Pythagore avec des verres plus ou moins remplis d'eau, des cordes plus ou moins tendues, et puis des rapports numériques. Et on se rend compte qu'il va comprendre qu'il y a une relation entre le fait que deux sons qui jouaient ensemble sont dans un rapport harmonieux, ces deux sons sont consonants et des rapports numériques simples. Alors en termes modernes, un accord qui serait une octave est lié au rapport 2 sur 1 ou 1 sur 2. Mmh. Un rapport qui serait une quinte comme do sol serait lié au rapport 2 sur 3. Et donc il met en évidence quelque chose d'assez intéressant, la relation entre un phénomène de la nature qui est observé et une mathématisation à partir de nombres très très simples, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4. Mmh. Et donc ça c'est le départ de sa réflexion, il se rend compte que on peut mathématiser le monde, on pourrait dire que finalement c'est une démarche scientifique tout à fait moderne, on observe un phénomène, on essaie de le mathématiser et à partir de ça, on va pouvoir utiliser ce langage mathématique pour aller plus loin.
Oui, alors sauf que certains vont l'utiliser en extrapolant un peu trop, disons, en se disant ben puisque on peut mettre en relation la taille des objets, le son qu'ils émettent, pourquoi ne pas se tourner vers le cosmos, les planètes, les étoiles et imaginer que tout ça a une certaine harmonie.
Tout à fait. Donc c'est exactement ce qui va se passer, c'est qu'on a quelque chose de très efficace. On va utiliser ces fractions même pour créer une gamme qu'on appelle la gamme pythagoricienne et puis Platon dans le Timée raconte, en fait, il voit ces planètes, sur chaque planète il y a une sirène qui joue une note, et les notes jouées par ces planètes qui va jouer les notes de la gamme, et donc va reprendre la théorie musicale de Pythagore. Alors le problème qui va tout de suite se poser aux gens, c'est de se dire, et c'est Aristote qui le dit, il dit oui mais moi je les entends pas ces sons.
Ouais.
Et là on a un débat, mais qui est un débat philosophique tout à fait important. Est-ce que le fait qu'il n'y ait qu'une personne qui dise entendre ces sons, qui est le maître Pythagore, alors que les autres ne l'entendent pas. Est-ce que ça veut dire que ça existe? Est-ce que ces sons, finalement, comme on est dedans, on s'est habitué, on ne les entend plus? Ou est-ce que ce sont des sons qui ne correspondent pas? Bon, il y a tout un débat philosophique autour de la nature de ces sons. Mm-hmm. Et ça va mener avec Aristote à cette idée que tout est nombre. Toute chose mesurable est nombre. Et pour les Grecs, les nombres, c'était les nombres entiers, 1 sur 2, 1, 2, 3, 4. Et donc, les rapports de ces nombres, puisque toute mesure est une comparaison de deux choses, eh bien, ce sont finalement des deux tiers, des trois quarts. Et donc, ce sont des notes de musique.
Ouais.
Et donc, va pouvoir faire ce parallèle entre la taille d'objet et des notes de musique.
Ouais.
Et c'est là que naît cette notion d'harmonie. Si on a 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4 qui sont des rapports musicaux harmonieux, des sons, des accords consonants, ça veut dire que ces rapports cette harmonie-là, elle préserve le cosmos, l'ordre dans l'univers. Ouais. Et donc, il y a toute une mystique, toute une histoire qui va se créer autour de ce langage mathématique du monde.
C'est ça. Il y a, comme vous le dites, une mystique. Ce sont des théories. Mais on sait aujourd'hui que c'est faux, que ces planètes n'émettent pas les sons qu'on leur a attribués. Mais ça révèle quand même quelque chose, ce besoin pour les hommes de lier ce cosmos à la musique. Vous l'expliquez comment, vous, ça ?
Ah, je sais pas, mais je pense qu'on a toujours... Ce qui est intéressant dans la démarche de Pythagore, c'est qu'il va trouver quelque chose d'assez fabuleux, quand même des choses compliquées, des sons, des choses qui sont harmonieuses, et puis des nombres tout simples. Et je crois que souvent, ça nous arrive en science, c'est-à-dire qu'on va faire une théorie de quelque chose, et cette théorie va être tellement belle, tellement puissante, tellement simple pour expliquer des phénomènes complexes, que quelque part, à la fin... on a un sentiment de mystère qui persiste. Et je crois que chez Pythagore, c'est un petit peu ça qu'il y a. C'est-à-dire que la mathématique, quelque part, lui révèle l'existence d'un mystère au cœur de l'univers. Ouais. C'est peut-être ça. D'ailleurs, ils vont le représenter graphiquement avec un triangle dans lequel on va mettre un point, puis deux points, puis trois points, puis quatre points. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est 10, le nombre parfait. C'est ce qu'on appelle le tétractys. Ouais. Et en fait, cet assemblage contient en fait tous les accords, parce que la première sur la deuxième ligne, c'est l'octave, et ainsi de suite. On retrouve tous les accords de musique, et on retrouve toute la symbolique qu'il va y avoir dans l'école pythagoricienne, et quelque part, ce symbole-là serait l'explication du monde.
Oui, c'est ça. On navigue entre des choses très, très carrées, très mathématiques, très observées, et puis on est un petit peu quand même aussi dans l'ésotérisme.
Oui, mais je crois qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire que depuis Pythagore, on a développé ce qu'on appelle la méthode scientifique, avec la méthode expérimentale, la rationalisation, la reproductibilité des résultats. Mais à la fin, quand vous avez des résultats sur le monde, sur l'univers, par exemple, il y a toujours des choses qui restent inexpliquées. Et il y a un moment, dans cette petite faille-là, il y a toujours un mystère qui reste. Ouais. Je peux vous raconter, vous expliquer la structure de l'univers, son développement, tous les phénomènes cosmiques qui se sont passés, qui ont été établis de façon scientifique, mais je ne peux pas vous donner la cause de l'origine de l'univers. Là, c'est au-delà du discours scientifique. Ouais. Le discours scientifique a l'avantage, finalement, d'être limité dans ce qu'il est capable d'expliquer, et donc, il laisse toujours un mystère. Et finalement... on est à la recherche aussi de ce mystère, et c'est ça qui nous ramène de l'émotion, en fait, dans la science, qui est parfois assez aride, parce que on doit faire quelque chose qui est un peu déshumanisé. Ouais,
alors, il laisse toujours un mystère, et puis il réserve aussi quelques belles surprises, parce que, après avoir abandonné la théorie de cette musique des sphères, beaucoup plus récemment, ça remonte à quelques dizaines d'années, même pas, en regardant les étoiles, en regardant leur surface vibrer, on est parvenu à reconstituer un son. Alors bien sûr, ce son ne se propage pas jusqu'à nous, il n'existe pas vraiment, mais on peut le reconstituer comme si on filmait la surface d'un tambour et qu'on reconstituait le son que ce tambour émet dans le vide. Et ça donne, par exemple, pour l'étoile HR 3831, ce son. Alors, ce son de sirène de bateau, presque, ce serait le son de cette étoile. Comment, le chant même de cette étoile, pour être plus poétique, Philippe Usan, comment il faut l'entendre, ce son? C'est un son théorique, c'est un son qui a une réalité?
Je pense pas que ce son ait une réalité en soi. Donc, essayons d'expliquer ce qui se passe. On a une étoile comme le soleil, et on a découvert que ces étoiles vibraient. Donc, un objet qui vibre, donc le soleil, lui, c'est de la matière. Donc, à l'intérieur du soleil, il peut se propager des ondes de pression, donc ce qu'on appelle du son. On est capable, par l'observation de la vibration de la surface du soleil, de mesurer tous les modes de vibration de ce soleil. Et donc, comme avec un synthétiseur, on est capable de reconstruire le son qu'aurait ce soleil si on le baignait dans une atmosphère qui était telle que la nôtre. Et alors ça, c'est très important pour la raison de l'existence de ces sons, c'est que le soleil, il y a des réactions nucléaires au cœur du soleil, cette énergie doit sortir du soleil, il y a des courants de convection qui vont taper en fait un peu sur la surface du soleil. Donc finalement, le soleil est vraiment littéralement un gros tambour qui vibre. Ouais.
Ça veut dire que, alors, chaleur mise à part, si on arrivait dans une tenue complètement ignifugée, particulièrement bien isolée, à rentrer à l'intérieur du soleil, cette fois on entendrait quelque chose. Il y aurait un sacré barouf.
Alors ce qu'il y a, c'est que, comme vous le savez, plus un objet est gros, plus il est grave. Regarde, comparer la contrebasse et le violon, c'est la même forme.
Ah oui.
Voilà.
Donc là, c'est
le soleil et voilà. Donc pour entendre ce son, pour les sons du soleil dans notre dans qui pour que ça devienne audible pour l'homme, il faut les transposer, si mon souvenir est bon, de 8 octaves. Ouais. Donc ça veut dire que c'est des infrasons pour nous, mais si on était capable de survivre à cette température, à cette densité, à tout ce qu'on veut, on fait de la science-fiction en ce moment, eh bien oui, nous serions baignés de ce genre de son.
Ouais. Alors le soleil, en tout cas à sa surface, il résonne en sol dièse, ça ne s'invente pas, le soleil en sol dièse, on dirait que ça a été
ça
a été fait pour. On va l'écouter, le chant de notre soleil. Alors il faut avoir un poste avec des basses, des enceintes qui permettent de retransmettre les basses, parce que il est très bas le son du soleil. Alors c'est un sol dièse particulièrement grave que le soleil émet. Comment vous les entendez, vous, ces sons? C'est de la poésie? Ça vous émerveille?
Je pense que c'est surtout de la poésie. C'est-à-dire que pour un astrophysicien, ce qu'il entend d'abord, c'est tout ce qu'on a appris sur le soleil avec la capacité de mesurer en fait ces modes de vibration. C'est une science assez nouvelle qu'on appelle l'héliosismologie, donc la sismologie du soleil, qui a permis de comprendre la composition intérieure du soleil, sa structure, et donc les astrophysiciens voient d'abord en fait ce que ça a apporté. Ensuite, on peut se relier à cette tradition du chant des planètes et des étoiles, et de se dire, ben finalement voilà, j'ai une note, je pourrais prendre différentes étoiles, à chaque étoile serait associée une note, et à partir de ça je peux recréer une gamme stellaire. Alors c'est ce qu'a fait une de mes collègues qui s'appelle Sylvie Vauclair de l'Université de Toulouse. Elle a travaillé avec le compositeur Claude-Samuel Lévin. Et donc, ils ont créé de façon synthétique cette banque de sons. Ils ont une gamme d'étoiles qui leur permet de faire de la musique. Et ils ont composé pour cet instrument.
Alors, on va écouter, du coup, la musique des étoiles.
Super.
Composée par Claude-Samuel Lévin.
Ah bah, génial, quel enchaînement. C'est vraiment le bivouac.
Alors oui, c'est ça. Vous vous attendiez pas à l'écouter?
Non, pas du tout.
C'est le genre de musique que vous pourriez écouter en regardant le ciel, par exemple, pendant la nuit des étoiles, ce week-end?
On pourrait écouter ça. Je pense que la musique qu'on écoute dépend principalement de notre état intérieur. Ça, c'est, on peut écouter du Queen comme on peut écouter ce genre de musique ou de la musique classique. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi utilisé dans ces compositions un instrument très intéressant qui s'appelle la thérémine, et qui lui aussi a une histoire liée à la physique, puisque la personne qui a créé cet instrument était un ingénieur russe qui était physicien qui travaillait sur les condensateurs. Donc quelque part, c'est un des premiers éléments électroniques, et on voit que voilà, on rejoint aussi cette histoire entre science et musique qui est multiple. On a pris la voie de l'astronomie, mais en fait il y a de multiples chemins qui lient musique et science. Et là, elles se rejoignent d'une certaine façon, donc c'est assez joli.
Suite de nos balades cosmiques avec Jean-Philippe Uzan dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter. Just leave. c'était Loaded, Miles Kane sur France Inter. Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, auteur de L'harmonie secrète de l'univers. La musique que l'on entend se déployer derrière nous et que l'on entend actuellement, elle vous est familière. Hein. Le morceau s'intitule Le baiser de la mort. Il est composé par Fabien Waxman avec votre concours. C'est un morceau qui évoque la fusion de deux trous noirs. Donc vous avez travaillé ensemble pour composer ce morceau. C'est lui qui l'a composé. Vous êtes intervenu de quelle manière ?
On a travaillé ensemble, donc déjà c'est parti d'un projet où on avait été invités tous les deux par l'Opéra de Paris pour faire travailler des étudiants en classe d'écriture du Conservatoire de Paris, ouais, avec des étudiants en sciences de l'Université Pierre et Marie Curie. On avait fait des binômes et chacun on a commencé à s'expliquer des phénomènes de la nature. Donc ça fait partie d'une autre partie de ma vie, d'une autre vie parallèle, c'est, ouais, de travailler avec des artistes, parce que je pars de cette idée que ce qui fait rejoindre finalement cette idée entre art et science, c'est cette notion de curiosité. C'est-à-dire que la curiosité, dans son origine, c'est le mot caritas, le mot soin. Donc, mmh, le soin qu'on porte au monde dans lequel on vit. Et l'artiste est sensible à beaucoup de choses qu'il essaye de retranscrire pour le communiquer à d'autres personnes. Et le scientifique a le soin des petits phénomènes parce que c'est ça qui va lui permettre de creuser l'état de la nature. Et bien sûr, comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas sensibles et qui ne sont pas accessibles facilement pour des artistes. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont fascinés par les développements actuel de la science. Donc on s'est rencontré avec Fabien, il était compositeur, il aurait rêvé d'être astrophysicien, je suis plutôt astrophysicien, j'aurais adoré être compositeur. Donc voilà, il y a une sorte d'échange de vie. Et donc on a commencé à discuter ensemble, à travailler ensemble, et on a voulu composer ce morceau parce que je lui avais raconté un petit peu des histoires, parce que je travaillais sur les ondes gravitationnelles à l'époque, de quels étaient ces signaux, quelle était l'histoire qui menait à ces signaux, donc ces deux étoiles qui tournent autour de l'autre, ce qui peut se passer avec une étoile, donc son évolution, une étoile va au cours de sa vie va changer de couleur, changer de température. Donc finalement, on a un ballet, deux étoiles qui, ouais, tournent l'autre autour de l'autre, et on a toute une dynamique. Donc un morceau de musique, c'est une histoire. Il fallait raconter une histoire. Donc j'ai commencé par raconter une histoire. J'ai ensuite fait un dessin très schématique. D'accord. Avec ces deux étoiles qui tournent, avec ce qui se passait. Il y en a un moment, elle se transforme en pulsar. Un peu comme si vous faisiez un storyboard d'un film. Ouais. On se rapproche, on voit les étoiles. Bon, on a imaginé ça, on en a parlé. Et puis un jour, il s'est mis au piano et on a fait une sorte d'improvisation. C'est-à-dire que j'ai commencé à raconter l'histoire. Et il jouait au piano des thèmes, et je lui dis, voilà, c'est un peu plus rouge, ou là, c'est un... Voilà. Et puis après, bien sûr, il y avait ces deux étoiles qui tournaient, donc lui a mis à l'intérieur de sa composition, qu'il a travaillé à partir de ces thèmes, des choses qui rappellent les symétries. Donc, si on a deux choses qui tournent, ben, comment faire tourner un son? Donc ça, c'est la technique, le savoir écrire d'un compositeur.
Ouais. Alors lui, il s'est inspiré clairement de vos consignes, hein. C'est d'ailleurs amusant de voir que vous donniez des consignes de couleurs, de lumière, et que lui a transposé ça en son. Est-ce qu'inversement, ce travail que vous faites avec les artistes, il nourrit votre pratique de scientifique? Est-ce qu'une fois de retour dans votre laboratoire, toutes ces expériences, elles vous ouvrent l'esprit pour peut-être découvrir d'autres choses?
Alors, je suis pas sûr que je puisse dire oui à cette question-là, mais elle m'aide. Pas dans le sens direct d'aider ma recherche, mais elle m'aide en tant que dans mon équilibre, c'est-à-dire que, ouais, pour moi ça ouvre un espace de liberté. Comme je disais souvent, le travail du scientifique, c'est de produire des résultats qui sont reproductibles par tout un chacun. C'est-à-dire on peut avoir toute inspiration qu'on veut au départ d'un travail, à la fin ce que je produis, en fait je me mets derrière ce résultat. On s'intéresse pas au scientifique, ce qu'on s'intéresse c'est au travail. S'il y a une démonstration, elle doit être reproductible par des collègues. S'il y a une expérience, eh bien d'autres collègues doivent être capables de refaire la même expérience et de trouver des résultats qui sont similaires, parce qu'on est en train de créer un savoir qui est indépendant de la personne qui mène ses travaux. Et donc finalement, c'est assez déshumanisé. Mais dans les laboratoires, quand vous discutez avec vos collègues, on vous dit, moi, ce qui m'a inspiré, c'est telle bande dessinée, c'est tel poème, c'est telle œuvre musicale. Et donc, on voit que ce qui nous nourrit culturellement ou dans notre vie est très important. Si vous discutez avec des collègues plus théoriciens, mathématiciens, on va toujours vous parler de l'esthétique, de la beauté des théories, qui est très difficile à définir. Et donc, il y a un sens esthétique qui vous guide. Donc, quelque part, oui, ça me nourrit, ça me donne un espace de liberté, ça me permet de respirer. mais d'un autre côté, ouais. c'est, ça m'a rien fait découvrir en termes strictement scientifiques.
Ça infuse, en fait. Voilà. La bande son est importante dans les films qui nous font voyager dans l'espace. Vous parliez de storyboard tout à l'heure. C'est le moment de retrouver Jérémy Querenet et sa chronique en partenariat avec le CNES, l'Agence spatiale française.
Non, ça va pas du tout,
coupez! Arrête ton cinéma.
Liaison radio, on entend une voix ici. Humaine?
Oui, on dirait.
Poussez le son.
C'est une banalité peut-être, mais c'est toujours une vérité. Le son au cinéma est un élément très important qui pourtant passe souvent inaperçu. Et c'est encore plus flagrant et injuste dans la science-fiction. On s'émerveille devant les effets spéciaux visuels et on remarque beaucoup moins les créations sonores qui les accompagnent. Pourtant, pour réussir son voyage dans l'espace, il faut aussi une belle bande-son. Le cinéma spatial explose dans les années 50, quand la course aux étoiles est vraiment lancée sur Terre, et quand la musique électronique voit le jour. Les deux sont rendus possibles par le développement de la naissante informatique. Et donc logiquement, la science-fiction va très vite exploiter cette musique nouvelle, étonnante et technologique. La bande-son de Planète Interdite en 1956 est la première entièrement électronique.
Encore un de ces foutus nouveaux mondes. Sans pinard, sans femme et sans le moindre bistrot, sans rien. On n'a rien à fiche qu'à flanquer des cailloux dans des boîtes de conserve quand on veut se distraire.
Attention, commandant à l'équipage, écoutez.
Tout se fond et se confond dans Planète Interdite. Les bruits de la fusée, du robot, des pistolets et la musique. Tout est électronique. Mais ce qui fait moderne, à l'époque, va rapidement se démoder. Et aujourd'hui, on reconnaît facilement à l'oreille un film de science-fiction des années 50. Vingt ans plus tard, George Lucas va faire un choix bien différent. Conseillé par Spielberg et sûrement inspiré par 2001, l'Odyssée de l'espace et ses musiques classiques, Lucas commande à John Williams une musique orchestrale pour son premier Star Wars. Williams emprunte à Wagner l'idée du leitmotiv qui associe une mélodie à un personnage, un lieu ou un type d'action. Mais si la musique de Star Wars est classique et dénuée entièrement d'instruments électroniques, il en va différemment des bruitages. On a souvent souligné l'erreur scientifique de Star Wars, consistant à nous faire entendre des bruits dans le vide spatial où en vrai ils ne se propagent pas. Mais on peut aussi s'émerveiller des créations sonores du film, comme le fameux sabre laser, ou le bruit des vaisseaux et leurs canons laser, ou même les boutons des vaisseaux, car oui, dans la science-fiction, les portes comme les boutons sont aussi des éléments sonores. Tous ces bruitages font partie de l'ambiance de la plupart des films de science-fiction, comme des vestiges de la forte influence des musiques électroniques expérimentales des années 50.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
De toutes les archives de la conquête spatiale, celle qui reste la plus fortement gravée, répandue, identifiable, n'est pas une image, mais bien ce son, cette phrase d'Armstrong. Elle aura beaucoup et durablement influencé le cinéma également. Peu de films dans l'espace sans ce bruit de scaphandre, ces respirations lentes et profondes, ces communications grésillantes. Et surtout, le son reste LE moyen de communication de l'espace, une sorte de cordon ombilical qui maintient le lien avec le vaisseau ou avec la Terre. Dans Gravity ou Planète Rouge, c'est le même espoir de trouver une radio qui marche. Nos naufragés de l'espace ne cherchent pas à envoyer un texto à Houston, mais bien quelqu'un à qui parler.
Allô ?
Le son d'une voix.
On est les gars sur Mars.
Et merde, répondez quelque chose. Vas-y, recommence.
Ici Mars One, équipe au sol, vous me recevez ?
Mais oui, on vous reçoit toujours avec bonheur, Jérémy Querenet, et à la semaine prochaine, vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy et d'autres infos complémentaires sur le site du CNES, l'agence spatiale française, dont nous sommes partenaires, cnes.fr. Jean-Philippe Usan, je vous ai écouté avec vraiment beaucoup de plaisir, un grand sourire. C'est un genre qui vous plaît manifestement, à la science-fiction.
La science, en général, j'adore le cinéma. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi aussi, est très important. Pour la petite histoire, de 2013 à 2017, avec Cédric Villani, on a créé et puis programmer le ciné-club de l'Institut Henri Poincaré qui se passait au Grand Action. Et à chaque fois, on avait des films, vraiment des films d'auteurs, mais qui n'étaient pas juste des illustrations de la science, mais qui nous permettaient de parler de tous les sujets de la science. Et donc, on a passé beaucoup de science-fiction, mais pas que.
Ouais. Et alors, sur ces films qui nous font voyager dans l'espace, qu'est-ce que vous ajouteriez à ce que Jérémy nous a dit sur cette façon de mettre en son l'aventure spatiale?
Mais je crois que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on a besoin de tous nos sens pour créer un univers. Et donc, quelque part, si on ne voyait que les images, je ne crois pas qu'on qu'on sentirait le même univers. Et donc les gens qui font ces bruitages, parce que ces bruits sont toujours exagérés par rapport au bruit du monde réel, en fait, quelque part, j'imagine que c'est un peu des grands psychologues. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé qu'en mettant ces sons, on arrivait à mettre le spectateur dans un état mental qui lui permettait finalement de s'imbiber du film. Donc ça, faudrait demander à des gens qui sont des neuroscientifiques peut-être d'expliquer ce genre de choses, mais je suis persuadé que le cerveau a besoin de ces différentes sources d'informations qui sont le son et l'image pour créer son environnement et s'imaginer dans cet environnement.
Et si la musique était le meilleur moyen d'entrer en communication avec des civilisations extraterrestres ? Nous allons évoquer cette question avec vous, Jean-Philippe Uzan, dans un instant. C'était la danse des ombres, Françoise Breut sur France Inter.
Ça va, ça recommence. Attendez, une minute, ce sont des chiffres. Il y a eu un 3, celui juste avant était un 2. Basé sur 10 chiffres, commençons à compter.
Ça fait 5.
1.
7.
7. Ce sont des premiers. 2, 3, 5, 7, ce sont tous des nombres premiers. Ça ne peut pas être un phénomène naturel. Bon, bon, restons calmes surtout. Trouve-moi vite le dossier sur Vega.
Ça n'a vraiment aucun sens. Ce système est trop jeune.
Quelques balles signal, il faut faire vite quelque chose. Vega va se coucher.
Et la position est confirmée. On a 4.4623 GHz. Confirmé, on a exactement 112 junkies.
Et est-ce que vous avez une localisation de la source ?
Eh bien, on l'a mis en plein dans le mille. Vega.
D'accord, Yann, merci. Continuez le repérage et nous vous rappellerons.
Absolument.
Absolument. extrait du film Contact de Robert Zemeckis. Alors dans ce film, le message qui nous parvient d'une civilisation, on ne sait pas trop de qui hein, à ce moment-là, est un message d'ordre mathématique. Mais Jean-Philippe Uzan, est-ce qu'un jour on peut imaginer communiquer avec de la musique, peut-être avec ces civilisations hypothétiques, lointaines?
Voilà. En tant que grand fan de Rencontres du Troisième Type, ma réponse va être radicale. Oui. C'est le seul moyen de faire, d'accord? Pour ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez de la scène de la fin où les extraterrestres arrivent, il y a ces quelques notes qui sont jouées et ça devient quasiment, ça se développe quasiment comme un concerto avec ces lumières. Et là, on revisite, alors, il y a dans la petite chronique, on en parlait un petit peu, c'est cette idée des instruments électroacoustiques et aussi de combiner lumière et son. Donc, ça remonte vraiment au début du 20e siècle. Scriabine avait créé un orgue à couleurs, un peu à la Borisian, on va dire, où il y avait des couleurs associées au son, et on a ce truc flamboyant où les gens apprennent un langage. Alors ce qui est intéressant, c'est que la musique, c'est un langage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des fractions, c'est des nombres, donc finalement, on peut coder n'importe quelle suite de nombres de façon musicale, comme de façon lumineuse, et pourquoi pas? Est-ce que ces extraterrestres auront ce sens? Oui. Nous n'en savons rien, parce que peut-être que ces extraterrestres, ils parlent ondes gravitationnelles et qu'ils ils sont sourds.
Oui, c'est ça, j'en sais rien. On n'est pas sûr qu'ils aient des oreilles, des oreilles à capter les ondes gravitationnelles. Cela dit, dans le doute, dans les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2, on a mis des CD voilà, avec des morceaux de musique dessus.
Le Golden Record, donc, qui a été lancé sur la sonde Voyageur 1 en 1977, il y a un ensemble de morceaux de musique, une sélection qui a été faite avec de la musique classique, mais pas que. Il y a aussi de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'ethnomusique, c'est-à-dire voilà, de la musique du Pérou, d'Afrique, et ainsi de suite, pour montrer la diversité du langage musical. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Je ne sais pas si un jour des extraterrestres trouveront ce truc, parce que la sonde est à peine sortie du système solaire il y a quelques années, donc on voit qu'on est sur des échelles de temps qui vont dépasser celle de notre humanité.
Oui, et puis on n'est pas sûr non plus qu'ils aient le lecteur pour le CD. Donc
voilà, on est plutôt dans de la science-fiction, mais on pourrait se dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un un jour écoutait ce disque? Et d'ailleurs, dans mon livre, je fais un peu l'exercice de science-fiction en essayant d'imaginer les sentiments d'un ou d'une extraterrestre qui mettrait ce disque, qui écouterait pour la première fois le concerto brandebourgeois de Bach, puisque c'est le premier morceau. Et je me demande si il ou elle est ému. Parce que finalement, le fait que nous soyons émus en écoutant Bach, c'est bien sûr parce que c'est Bach qui l'a composé, mais c'est aussi parce que c'est l'héritage culturel de génération en génération. Donc ça en dit énormément sur notre humanité.
Ouais. C'est peut-être avant tout à nous que l'on parle hein, quand on sélectionne ces morceaux que l'on veut envoyer pour se représenter. Ce week-end, les Nuits des Étoiles se dérouleront aux quatre coins de la France. Et puis, Jean-Philippe Uzan, peut-être un mot du Festival d'Astronomie de Florence. C'est la 28e édition cette année. Ça commence...
Comment samedi, donc
vous y serez, vous participerez.
J'y serai. Donc le festival dure une semaine. La première journée, donc le samedi 4 août, nous avons ce que nous appelons le marathon des sciences. Donc un thème décliné selon à peu près toutes les disciplines scientifiques et non scientifiques que l'on peut imaginer. 12 conférences en 12 heures, donc un vrai marathon. C'est toujours assez intéressant et sportif.
Ouais.
Et
sur quoi portera votre conférence à vous, ce dont vous allez parler?
Je vais faire une conférence en l'honneur de Stephen Hawking, puisque mes camarades m'ont demandé de faire le point sur ce que les travaux de Stephen Hawking ont changé dans la façon de penser la mécanique quantique, la relativité générale, et voilà, qu'est-ce que ça a amené. Donc vraiment de parler de ses travaux, pas de l'homme dont on a beaucoup parlé, mais de ses travaux, et en quoi est-ce que c'est des travaux qui ont changé notre vision de l'espace et du temps, et puis aussi qui portent beaucoup de questions, parce que finalement un grand scientifique, c'est des gens qui résolvent des problèmes, mais c'est aussi des gens qui ouvrent des voies, et c'est le cas des travaux de Stephen Hawking.
Il y a un thème particulier à ce festival?
On n'a pas de thème pour le festival, parce qu'on veut parler de tout, aussi bien de météorites, de galaxies, d'étoiles. On essaie de suivre un petit peu l'actualité avec les nouvelles sondes, on va bien sûr parler de Mars, on va parler de Vénus, et puis des fois on revient dans l'histoire, et donc cette année on a la chance d'inviter quelqu'un qui s'appelle Nuncio Ordine, qui est un historien italien, peut-être le plus grand spécialiste mondial de Giordano Bruno.
Oui, alors Giordano Bruno, effectivement, il y a des citations de lui. Et alors, il y a un tout petit lien avec ce qui suit. D'abord, je rappelle le titre de votre livre, hein, Jean-Philippe Uzan, L'harmonie secrète de l'univers aux éditions La Ville Brûle. Et je vous présente les invités de la deuxième heure, Pierre Adrian et Philibert Hume. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour, merci.
Vous avez fait un tour de France, loin des grands axes, des autoroutes et des lignes de train à grande vitesse. Vous avez pris l'itinéraire emprunté par deux jeunes héros du livre Le Tour de la France par deux enfants. Le pseudonyme de celui qui a écrit ce livre, c'était G. Bruno. en référence à Giordano Bruno. Et ça, vous l'avez compris en faisant ce tour de France, d'où le lien et cette perche que vous tendez gentiment notre invité Jean-Philippe Usan. En tout cas, votre périple est savoureux. Vous le racontez très bien dans un très joli livre qui nous a donné envie de vous inviter. Alors, à tout de suite.